Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose, s'il vous plaît, d'ouvrir la séance. Madame Borel, comme d'habitude, pour faire l'appel.
Abidi Nadia, représentée par Hervé Cherubini. Aoun Daniel. Blanc Michel, représenté par Yves Avergeon. Body Bouquet Florine. Brossard Gonfond Anne-Marie. Cherubini Hervé.
Présent.
Clapier Jean-Pierre.
Présent.
Colombet Gabriel.
Présent.
Dourdin Carole. Favergeon Yves. Gay Michel, représenté par Madame Aoun. Giovanetti Michel. Guéno Jacques, représenté par Yves Nègre. Guignard Stéphane, représenté par Monsieur Bonnet. Guillot Pierre. Ingoglia Angeline. Jodard Françoise, représenté par Claudia Montagu. Lapère Pierre. Lobry Patricia. Marin Bernard. Marceau Jordan. Milan Henri, représenté par Angeline Goglia. Montagu Claudia. Nègre Yves. Houlet Vincent. Pascal Martine. Perrault Ravès Gisèle. Plot Isabelle. Ponce Frédéric. Rebo Mireille. Vidal Fuentes Denise, représenté par Patricia Lobry. Wild Mireille. Merci.
Merci. Alors, comme lors de chaque séance, je vous propose d'adopter, si vous en êtes d'accord, le compte rendu de la séance précédente. Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarques sur le compte rendu de la séance précédente ? Alors, qui est contre ? Pas de contre ? Abstention ? Unanimité. Merci. On poursuit là aussi, comme d'habitude, avec un certain nombre de décisions. Alors, la première, la numéro 2018-77, il s'agit de la signature d'une convention avec l'établissement public local d'enseignement et de formation, les Alpilles, pour la mise à disposition de locaux, en l'occurrence l'hébergement des renforts de gendarmerie. Voilà, pour un coût d'environ 3 500 €. Pour les 9 gendarmes qui sont venus en renfort cet été. La suivante, la 2018-78, fourniture de peinture pour le traçage des terrains de sport. Donc c'est une décision qui porte sur 5 ans, ça coûte à peu près 1 000 € par an, hein, ça ne va pas très loin. Mais en signant sur 5 ans, on a la traceuse qui est offerte. Donc évidemment, on a profité de l'opportunité.
Bonsoir Monsieur le maire,
oui,
excusez-moi,
bonsoir,
bonsoir à tout le monde. Là, nous avons la première décision où il est noté sur la base des tarifs joints en annexe. D'accord. Donc chaque fois qu'il y a effectivement une délibération ou une décision où il y a des pièces jointes ou des annexes, vous nous dites qu'il faut se déplacer en mairie pour pouvoir les consulter. Est-ce que éventuellement vous pourriez accepter que nous ayons un dossier complet par groupe d'opposition avec toutes les annexes et les pièces jointes plutôt que de devoir se déplacer à chaque fois?
Pas de problème, on peut vous le faire passer, pas de souci.
Merci beaucoup, monsieur le maire.
Là, l'annexe, en l'occurrence, c'est 34 pots de blanc de 16 kilos minimum, 9 pots de bleu de 16 kilos.
Non, mais là, c'est pas intéressant. Enfin, mais quelquefois, c'est vrai que ça serait bien de les avoir, quoi.
On vous le fera passer.
D'accord, merci.
Alors, la suivante, la 2018-79. Convention d'honoraires avec la société d'avocats Buravan des maîtres Giguet Faupin. Ça concerne la défense d'un agent de la police municipale qui a subi des insultes de la part d'un particulier en août 2017. Voilà, vous avez le détail sous les yeux. La suivante, la 80, mission de coordination sécurité protection de la santé sur le chantier, aménagement de l'avenue de la Libération et de l'avenue André-Denis Pellissier. Bon, ces travaux, on les a évoqués lors de la dernière séance, vous connaissez.
Excusez-moi, est-ce que oui. Vous m'autorisez à revenir sur l'affaire Barthélémy-Giraud? Est-ce que l'affaire est terminée, en fait? C'est-à-dire que là, donc, on parle du bureau de...
Ça n'a pas été jugé.
...des avocats, mais...
Ça n'a pas été jugé.
Ah, voilà, d'accord. Pas encore. Merci. Excusez-moi du retard.
Alors donc, la 80, c'est les décisions classiques, hein, sur la mission de coordination de sécurité et protection de la santé. Ça concerne les travaux avenue de la Libération, dont on a parlé la dernière fois. Et le montant, c'est 8 100,40 € hors taxes. C'est proportionnel, évidemment, au montant des travaux. La 81, acquisition, installation et maintenance de logiciels pour la gestion des ressources humaines, la gestion financière et la gestion de la population. Alors, ça concerne la maintenance du logiciel gestion de la population, état civil, et en particulier aussi liste électorale. Vous savez que le système des listes électorales va changer. On aura dorénavant un REU, un répertoire électoral unique, qui sera tenu par l'INSEE, je crois, hein, au niveau national. Donc ça nous oblige, dans les collectivités, à modifier les logiciels. Donc c'est pour ça qu'on vous propose un avenant d'un montant de 1 935 € hors taxe. Il y aura une liste nationale électorale, ce qui évitera les doublons et, a priori, devrait faciliter les inscriptions, les radiations. Je dis a priori parce que plus c'est gros, pas forcément, mieux ça marche. Alors, la 2018-82, étude de programmation pluriannuelle des obligations légales de débroussaillement autour des voies communales. Donc là, ce sont les obligations légales de débroussaillement qui s'imposent à la commune en tant que propriétaire foncier et propriétaire de parcelles communales. Donc on a lancé un petit marché et c'est l'ONF qui a été retenu pour le montant que vous avez sous les yeux, 8 750 € hors taxe. C'était les larges et de loin d'ailleurs les mieux disables. Voilà.
Monsieur le maire, oui. S'il vous plaît, quand les travaux ne sont pas faits par les propriétaires, comment vous faites ?
Mise en demeure et la commune peut se substituer au propriétaire. On a une réserve pour ça au budget, sachant qu'après, ils sont mis en demeure, bien sûr, de rembourser avec des frais supplémentaires.
Hein. D'accord, merci.
Donc c'est prévu. J'espère. Pour l'instant, ce n'est pas arrivé.
Alors, la suivante est la 83, travaux de réhabilitation de l'ancienne école de la Libération. Il s'agit d'un petit avenant pour permettre d'ouvrir les fenêtres la nuit et de rafraîchir les salles. Voilà. C'était pas prévu au marché initial, donc là c'est 1 074 € hors taxe pour les trois salles.
Excusez-moi, vous avez une idée de la fin des travaux, de la date à peu près de la fin des travaux,
Monsieur Houlet.
Les travaux de la Libération sont finis, les deux salles sont terminées.
D'accord. Donc, à partir de très bientôt, elles sont opérationnelles.
Je vous invite à venir déjà le 18 octobre, si vous voulez, pour la réunion sur la Libération.
Ah ben voilà.
Alors, ça fera là à 19h.
Très bien, merci.
Alors, la suivante, la 84, travaux de réhabilitation de l'ancienne école de la Libération. Là aussi, c'est un petit avenant. En fait, il était prévu un module pour désactiver l'alarme pour les trois salles. Et pour des raisons de commodité, on va en installer un par salle, c'est-à-dire trois. Donc, c'est 316 € hors taxes supplémentaires. Ensuite, la 85, honoraire dû au cabinet des maîtres Giguet-Faupin. Alors, c'est une vieille affaire. Vous vous en rappelez, en 2015, il y avait eu un affrontement assez violent avec les forains qui s'étaient installés de force sur la place de la République. Donc, suite à ça, vous rappelez, hein, c'était la nuit, ça avait été assez tendu. Suite à ça, donc, il y a eu des discussions avec les forains et on est arrivé à trouver un compromis maintenant. Et toutes les années, donc au mois de juillet, ils s'installent plus sur la place de la République, ils s'installent à l'avenue de la Résistance et sur le parvis de l'église. Donc, il y a un accord qui a été trouvé avec l'ensemble des forains, sauf une personne. Une personne qui a insisté, quoi. Tous les autres avaient attaqué la ville, ils sont tous désistés le jour où on a signé l'accord, sauf une personne qui a été non signataire de l'accord, qui du coup n'a pas eu d'emplacement et qui continue à attaquer la ville. Bon, je pense sans à mon avis possibilité de résultat positif. Bon, après c'est au tribunal de juger, on verra bien. Dans l'immédiat, en tout cas, il y a 1 200 € TTC d'honoraires.
Monsieur le maire, concernant les forains qui sont installés sur le parvis de l'église, en tout cas tout devant, est-ce qu'il ne serait pas possible de les loger un petit peu ailleurs ? Parce que c'est vrai que c'est un peu problématique pour les personnes qui pratiquent déjà. Pour ceux qui assistent aux messes, bon, on entend tout. Et puis tout simplement et surtout... Il y a des personnes qui ne peuvent, à mobilité réduite, qui ne peuvent même pas monter sur le côté lorsqu'il y a donc le plan incliné, côté rue Lafayette, enfin rue de avenue de la Résistance, parce qu'il y a des forains partout. Donc comment peut-on régler ce problème-là, monsieur le maire ?
Alors, je vous rappelle la situation intérieure. Donc avant 2015, on avait des forains sur la place de la République. Et les gens qui fréquentent l'église se plaignaient du fait qu'ils pouvaient pas se garer, c'était difficile d'accéder à l'église vu que la place était prise. Donc, pour cette raison et beaucoup d'autres, on a souhaité dégager la place. Il a bien fallu essayer de la mettre quelque part. Donc, c'est avenue de la Résistance et sur le parvis de l'église. Alors, on essaie tant bien que mal et du mieux possible. Je sais que c'est pas évident et je sais qu'on n'y réussit pas forcément chaque fois, mais on essaie de faire en sorte qu'un passage soit laissé pour les personnes à mobilité réduite pour qu'elles puissent prendre la rampe et pour qu'on puisse accéder à l'église à peu près correctement. Après, je suis tout à fait conscient de la gêne, hein. Je comprends que ça soit difficile pour les pratiquants le dimanche matin. Mais je pense que c'est quand même une situation qui aujourd'hui est plus, comment on pourrait dire, est plus simple pour eux que ce qu'elle était auparavant. Après, toute la problématique, c'est faire en sorte que les forains respectent les emplacements qui leur sont impartis. Ça, c'est encore autre chose. Je sais pas si tu veux rajouter
une... Oui, la place de la République, honnêtement, de toute façon, elle est occupée. Donc, je vois pas où est le changement. Pourquoi ? Ah non, mais là, vous parlez du 14 juillet, là. Oui, voilà, vous parlez du 14 juillet. Voilà. Non, mais là, je parle aussi, moi, des fêtes de Saint-Rémy, là, que nous venons de vivre.
Moi, je vous ai répondu sur le 14 juillet, parce que là, cette affaire...
Oui, je sais bien, mais oui. Le problème est identique là, maintenant. Quoi.
Je voulais juste compléter concernant le bruit, parce que on est aussi attentif aux problématiques du bruit, aussi bien le soir, d'ailleurs, que pendant des offices ou des manifestations. Les manifestations à l'église. Donc il y a un accord avec les forains pour que lorsqu'il y a une messe ou une autre célébration au sein dans l'église, ils arrêtent leur volume, leur installation sonore. Après, ça peut être qu'il y a eu des débordements, mais normalement, d'une manière générale, ça ne doit plus être un sujet. Si ça l'est toujours, et bien, il faut nous le signaler et puis on reviendra vers eux.
En fait, ce ne sont pas forcément les forains, mais ça peut être aussi les bombes, ça peut être aussi les fanfares, ça peut être... Non, mais bon, après, honnêtement, je pense que si ce qui est le plus grave, c'est quand même, le fait que les personnes à mobilité réduite ne puissent pas passer correctement. Ça, c'est vraiment le plus grave. Après... Bon, le bruit, c'est vrai que ça dérange lors d'un office, mais enfin, bon, c'est une fois par an, admettons. Mais c'est surtout par rapport à l'espace qui est laissé aux personnes qui sont en fauteuil. Vous savez très bien que la population des messes du dimanche, entre autres, ce sont des personnes souvent âgées, donc c'est problématique. Hein. Voilà, plus encore que le bruit.
Pour la rampe handicapée, qui est donc installée entre deux manèges, ça vous le savez, avenue de la Résistance, on leur demande d'être attentif, de laisser le passage. S'il faut, là où il y a 1,50 m, s'il faut laisser 2 m l'année prochaine, on leur demandera de laisser 2 m l'année prochaine. Hein, mais le but, c'est que lorsque la personne elle a accédé sur le trottoir, elle puisse assez aisément rejoindre la rampe bétonnée.
D'accord. Bon, ben, on s'en souviendra. Merci.
Alors la décision suivante, la 2018-86, c'est une autorisation d'occupation ponctuelle et programmée du parking de l'Alpilium. Je vous en rappelais, on avait délibéré donc sur le principe d'installer un food truck sur le parking de l'Alpilium les soirs de manifestation. Et cette décision, c'est le fait de retenir le choix du candidat. Donc... In fine, il n'y en a qu'un seul qui a postulé, donc c'est lui qui a été retenu, ce sont des personnes de grave zone. Voilà. Et la redevance, c'est 15 € net, c'est ce qui a été délibéré en conseil municipal par soirée. La 87, contrat d'entretien de l'élévateur PMR, donc PMR, vous savez, hein, personne en mobilité réduite, du gymnase COSEC. Vous avez les tarifs sous les yeux, 812,85 € TTC. La numéro 88.1, il s'agit de la location de l'Alpilium pour la nuit du tatou. Alors, cette année, ça a été un petit peu particulier. Nous avons pratiqué les tarifs classiques et habituels, hein, mais en accord avec les gens qui l'association de la nuit du tatou, nous avons reversé 375 €, donc aux organisateurs, pas pour eux, hein, mais qui eux-mêmes les ont reversés au centre de cancérologie de Montpellier. Et pendant la nuit du tatou, ils ont fait une opération en vendant des petites choses, là, type bracelets ou des petites bricoles, qui ont permis de financer le centre de calcérologie. Il s'était engagé au départ à ce que la somme soit au moins équivalente à l'effort de la ville. Donc, en fait, ça faisait deux fois 375 euros, ville et association. Mais ils ont vendu pour plus de 375 euros. Alors, j'ai pas la somme en tête. Monsieur Martin, peut-être, il a mieux que moi. Mais ils ont perçu plus que deux fois 375 euros, le centre de cancérologie. Mais nous, notre participation, ça s'était fixé à l'avance, c'était 375 euros. Voilà. Il nous a semblé que c'était une opération qui méritait d'être soutenue. Donc, et l'association et la ville ont fait des efforts pour le centre de cancérologie de Montpellier.
Vous avez une visibilité sur ce qui a été versé?
Alors, je sais que c'est plus que la somme.
Comment ça se passe, enfin, je veux dire.
Monsieur Martin? On lui fait passer le micro, voilà.
Il est prévu que l'association justifie dans les trois mois qui suivent la manifestation, que l'association justifie le versement. En cas de non-versement ou de non-justification, l'intégralité de l'allocation d'un pilium sera due à la ville, en fait. Donc là, il y a un délai de trois mois. Passé ce délai, on fait le point et on voit.
Alors, la suivante, il s'agit de l'adhésion de la ville de Saint-Rémy-de-Provence à l'association des communes pastorales de la région PACA. Voilà. Pour la modique somme de 50 euros par an, je pense qu'on peut y adhérer, vu l'activité pastorale forte qu'on a sur cette commune, et en particulier la journée de la transhumance. C'est quelque chose à laquelle tenaient beaucoup les bergers et leurs représentants. Et la dernière décision, convention de partenariat entre la commune, le CCAS et le comité départemental des offices municipaux des sports des Bouches-du-Rhône. Il s'agit de la mise à disposition de la salle Jean Massé pour le CCAS qui gère Bouger AG. Et d'après les retours qu'on peut avoir, ça a beaucoup de succès, ça se passe très bien et les gens qui fréquentent sont contents. Voilà. Alors on passe maintenant aux délibérations. La première, c'est Monsieur Houlet.
Alors, il s'agit d'une convention de transfert temporaire de maîtrise de l'ouvrage. Comme vous avez pu le voir, les travaux ont été faits au printemps. On a eu encore le principe de la direction de route pour les faire avant la saison touristique. Et comme vous le savez, la paperasse est un peu longue au niveau du conseil général et on reçoit la convention qu'aujourd'hui a signée.
Fait. Suite logique, hein. Sur cette signature de convention, pas de problème. Qui est contre? Abstention? Unanimité? On poursuit donc avec les dossiers culture. La première, donc, c'est Madame Laubry.
Oui, bonsoir. La délibération concerne la mise en place de la carte collégien établie par le Conseil départemental. Dans le cadre de sa politique jeunesse, le Conseil départemental souhaite que chaque collégien du département puisse bénéficier d'une carte collégien nominative. Elle vient en substitution du dispositif Latitude 13. Elle permet l'octroi de réductions auprès des partenaires qui sont sélectionnés par le Conseil départemental. Elle est une carte nominative, évolutive et connectée, et elle dispose d'un QR code et de nombreuses fonctionnalités. Elle est utilisable dans les domaines du sport, de la culture et des loisirs et du soutien scolaire. Il y a 100 euros qui concernent le sport, la culture, les loisirs et 50 euros qui seront consacrés au soutien scolaire. La carte est délivrée dès lors que le jeune en fait la demande. Et cette fois-ci, elle concerne plus particulièrement le musée des Alpilles. Ainsi, les collégiens pourront régler les ateliers d'art graphique lors des vacances ou les ateliers A des mercredis. Mais je vous informe que ce dispositif pourra également concerner d'autres services. Il peut toucher le service de la jeunesse, il peut toucher également la bibliothèque et le service culturel. Pas immédiatement, mais en cours, cela sera appliqué. Donc je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention pour un an, puis renouveler, qui sera renouvelée par tacite reconduction chaque année jusqu'au 31 août de l'année 2023, d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions pour les autres services, selon le modèle du musée des Alpilles, ainsi que signer toute pièce utile aux présentes. Merci.
Merci. sur ce dispositif ? Qui est contre ? Abstention ? Unanimité ? On poursuit avec Madame Florine Baudy-Bouquet.
Oui, il s'agit de dons dans les archives communales modernes et dans le fonds ancien de la bibliothèque Joseph Roumani, de 8 livres anciens en provençal, d'une image de communion de Joseph Roumani et de cartes postales datant de la Première Guerre mondiale. Donc, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de l'écrivain-éditeur Joseph Roumani, Madame Denise Dany Roumani a décidé de faire don de 8 livres en provençal ayant appartenu à son arrière-grand-oncle à la ville de Saint-Rémy. Elle fait également don de l'image de première communion encadrée de son illustre ancêtre. Ces livres et objets seront déposés à la bibliothèque municipale Joseph Roumani en vue de leur conservation. Par ailleurs, dans le cadre du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, M. Jean Roumani a décidé de faire don à la ville de Saint-Rémy d'un diplôme souvenir municipal de la Grande Guerre. D'initiative privée, ces diplômes souvenirs avaient pour but d'honorer tous ceux qui ont œuvré au sein d'un conseil municipal pendant la guerre. Il fait également don d'une très belle collection de cartes postales de la période de la Première Guerre mondiale, écrite pour la plus grande partie par son ancêtre François Marius Roumani. Donc en tout, c'est 376 cartes qui ont été étudiées, inventoriées et classées et qui seront conservées à la bibliothèque Joseph Roumani. Donc je demande au conseil municipal de bien vouloir accepter ces dons et d'autoriser le maire à signer la convention de dons établie entre les donateurs et la ville de Saint-Rémy, tout en disant sa gratitude aux familles Roumani pour sa générosité. Merci.
Merci. Sur ces dons. Encore une fois, je pense qu'il faut remercier chaleureusement, comme l'a dit Florine, ses familles pour leur générosité envers la ville. Et bon, s'il n'y a pas de commentaire autre, on peut passer aux voix. Qui est contre l'acceptation de ces dons ? Abstention ? Unanimité ? On poursuit avec le dossier du site patrimonial remarquable, M. Colombet.
Oui, bonsoir. Donc, c'est la mise en place donc du site patrimonial remarquable. En 2017, donc le 19 septembre dernier, on avait décidé la création du SPR. Et en novembre 2017, on a eu l'arrêté du préfet de région par la même occasion qui attribuait une subvention à hauteur de 3 500 €. Donc, considérant les études menées par les définitions et les démarches entreprises pour la validation d'un périmètre, donc on demande ce soir au conseil municipal de délibérer et de décider surtout sur la mise à l'étude de la création d'un SPR sur la commune de Saint-Rémy et d'autoriser bien évidemment monsieur le maire à demander une subvention autour de 50% à la direction régionale des affaires culturelles afin de financer l'ensemble des études à venir pour constituer le futur dossier du site patrimonial remarquable. D'ailleurs, vous avez dans le plan de financement donc la seconde phase, donc 40 000 €, donc l'élaboration du dossier complet. On demande donc 20 000 € à la DRAC et un autofinancement de la commune à hauteur de 20 000 €. Voilà. Et l'article 3 demande et autorise Monsieur le maire à signer toute pièce relative à ce dossier. Merci.
Oui, pardon, bonsoir. Je pense qu'il y a une petite erreur. Dans l'autofinancement de la commune, il est marqué 505 €. Et je pense que c'est 3 505 €.
Je vois pas.
Tu vas aller ?
Eh bien, en fait.
C'est 3 505 €, oui. D'accord.
Et oui, bien sûr, parce oui, que 7 005 moins 3 005, oui. Ça ne fait pas 505.
Oui, et puis l'autofinancement que de 505, oui. Ça pose.
Non.
Donc, très bien, vous avez raison, il y a une erreur qui sera corrigée.
Je me permets quand même de dire quelques informations dessus. Donc, les études ont été faites, l'élaboration du périmètre sera votée en commission nationale le 8 novembre prochain. Et à compter de cette date-là, on attendra l'arrêté ministériel pour pouvoir le présenter. Et il sera soumis à enquête publique. Voilà.
Alors le 8 novembre étant un déplacement professionnel, c'est Gabriel Colombet qui ira représenter la commune à la commission à Paris et on lui souhaite toutes nos chances de succès pour que notre dossier soit retenu. Mais bon, en principe, on aurait quand même vu la qualité du dossier et vu l'image que véhicule la ville à l'extérieur, je pense qu'on aurait quand même à être retenu. Voilà, comme ça on te met un peu la pression. Bien, sur cette mise en place du site patrimonial remarquable, qui est contre ? Abstention ? Unanimité ? Et il sera accompagné de Madame Vallée, donc directrice du service urbanisme, ce qui paraît logique. Ensuite, modification des statuts du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional des Alpilles. Je passe la parole à Gisèle Ravez, qui siège pour la ville, donc au parc.
Oui, en fait, il y a eu les statuts qui ont été, qui sont proposés à modification. Ce sont des ajustements surtout techniques, hein, comme il est dit dans la délibération. Les principaux ajustements portent sur l'adhésion de la métropole au parc pour le compte de trois communes, Lamanon, Sénas et Guières, de mémoire, puisqu'en fait, il faut savoir que c'est le parc qui œuvre pour tout ce qui est DFCI, hein, pour la lutte contre les feux de forêt et tout ce qui entretient la forêt contre les feux de forêt. Donc c'est une compétence communale que le parc exécute pour le compte des communes, et dans le cas de la métropole, c'est la métropole qui a la compétence. Donc du coup, elle se substitue à ces trois communes au sein du parc. Et donc, vous voyez dans plusieurs pages des nouveaux statuts qui sont proposés, la métropole qui apparaît, aussi bien en termes d'adhésion que de représentativité de ces trois communes, que de participation financière. Mais à chaque fois, ça reste bien sur la compétence DFCI et que pour la compétence DFCI, puisque c'est une compétence qui n'est plus communale dans le cas de la métropole, mais métropolitaine. Donc c'est le principe de substitution représentation. Un autre point qui est important à souligner, c'est dans la désignation, dans l'élection des présidents et vice-présidents, il est mentionné, donc c'est page, je l'ai mis où ? Page 7, je crois. C'est ça, voilà. Pour la présidence, c'était pas le cas avant. Ça doit obligatoirement être soit un maire d'une commune membre, soit un conseiller départemental ou un conseiller régional. Et pour la vice-présidence également, soit des maires, maires adjoints, conseillers départementaux ou conseillers régionaux. Donc c'était pas forcément le cas. Les maires adjoints, je crois qu'ils y étaient pas. Et l'idée, c'est que le conseiller régional soit au moins présent ou à la présidence ou à la vice-présidence, parce que de mémoire, c'est dommage, je connais pas les anciens, c'était pas forcément explicite comme cela. Voilà. Et le dernier point qui est important aussi, c'est que lorsqu'il y a une prestation qui est effectuée pour le compte d'une commune, qui dépasse en fait les missions du parc avec des missions très spécifiques, le parc donc se réserve le droit de facturer cette prestation, bon, ce qui semble normal s'il y a, en fait, il sert d'appui également aux communes dans le cadre de ces missions, mais parfois il peut y avoir, comment dire, des exigences, des besoins de la part des communes qui dépassent le cadre de ces missions, et donc ça pourra être sujet à facturation. Enfin, facturation, le mot est un peu fort, en tout cas, à participation financière de la commune.
Merci Gisèle, mais c'est vrai que nous aussi, on s'est dit, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas les anciens statuts pour pouvoir comparer, voir les points de différence, voir ce qu'on a pu changer, parce que là, bon, on a les nouveaux statuts, bon, c'est très bien, on vote pour ça, mais il aurait été intéressant qu'on puisse mener la parallèle entre les deux.
Tu as tout à fait raison. Je pense que lorsqu'il y a des modifications de statut pour d'autres syndicats, ça sera bien. D'ailleurs, je vais en avoir un bientôt, là, dans l'hydraulique. C'est vrai que ça serait bien, parce que même moi, ça fait longtemps qu'on a discuté, ça, au parc. C'est vrai que j'ai plutôt en tête, et c'est plus simple, effectivement.
Bien. Sur ces modifications de statut, on peut passer aux voix. Qui est contre ? Abstention ? Unanimité ? Alors, tout à l'heure, on parlait de pastoralisme. Cette fois, c'est du pâturage. Madame Ravez.
Je vous ai proposé de délibérer sur le renouvellement de deux conventions de pâturage donc qui existaient déjà. Hein. Monsieur Bontoux, donc pour 189 hectares, sachant que de mémoire, je crois que c'est son fils, hein, maintenant, je regarde Pascal. Hein. C'est ça, ça passe, c'est la convention qui... c'est Monsieur Bontoux père avant et ça passe au fils. Voilà. À noter par contre une différence que je vous signale, c'est le prix. On était à 10 centimes d'euros l'hectare et là on est passé à 1 euro sur les préconisations de l'ONF et aussi parce qu'en fait en dessous de 15 euros on ne peut pas recouvrir les recettes. Voilà, donc c'est vrai que l'ONF, ça fait plusieurs années qu'il nous demande d'appliquer le tarif minimum de 1 euro par hectare qui se fait dans d'autres communes. Bien sûr, les éleveurs ont été avertis, ils sont d'accord avec ça. Les 150 euros de frais de dossier, on en avait déjà parlé, hein, c'est l'ONF qui établit ses conventions, qui va faire la reconnaissance sur le terrain, etc., qui fait le suivi également, donc c'est une fois, hein, par convention. Voilà. Donc la première concession concerne donc M. Bontoux, et la seconde concerne M. Gabriel pour 153 hectares, et vous avez donc la cartographie et le parcellaire qui est joint à ces conventions.
Alors, il nous faut néanmoins les voter une après l'autre. Donc, sur la concession de pâturage accordée à M. Bontoux, qui est contre ? Pas de contre. Abstention ? Unanimité. Sur la suivante, donc, la même chose, mais cette fois pour M. Gabriel, qui est contre ? Abstention ? Unanimité. On passe maintenant à la chasse. M. Lapeyre.
Bonsoir à tout le monde. Bon, il y a un contrat de bail de chasse, il existe cette chasse à la garrigue depuis 2012. On a pensé de réactualiser parce qu'il y avait quelques points qui avaient changé. Par exemple, sur l'ancien bail, il était matrice référée au futur schéma décidistique départemental. Depuis qu'il a été fait, on a mis ce référé tout simplement au schéma départemental. En plus, il y a quelques petites, mais vraiment pas grand-chose, une petite mise à jour. Je pense qu'il y avait un peu plus Jordan, le pauvre, de dire. Voilà. Donc, comment vous dire, même s'il n'y a pas grand-chose, il faut le passer en délit. Donc, voilà pourquoi nous proposons une délibération sur ce nouveau bail de chasse.
Merci. Et vous avez sur table, parce qu'il y avait une petite erreur dans les pièces annexes, justement, ouais. il était mis à la société communale de chasse, en fait.
C'est ça, oui, c'était société communale de chasse, société maintenant c'est chasse, à la garrigue.
Ouais. Voilà.
Bon. Sur la délibération, il y avait société de chasse à la garrigue, et sur le bas, il y avait société communale de chasse, nous l'avons rectifié.
Tout à fait. Bien, sur la proposition de M. Lapeyre, on peut passer aux voix. Qui est contre ? Abstention ? Unanimité. Alors, toujours M. Lapeyre sur les coupes de bois.
Bon, mais ça, c'est une délib habituelle qu'on en passe environ au moins une ou deux par an. C'est une coupe de bois sur les parcelles forestières numéro 14 pour une surface de 21 hectares sur les cantons du Val-d'Avie et du Vallon d'Étienne, c'est le quartier du Grèce. Les parcelles cadastrales concernées sont les BC 57 et 87. Après, il y a la IS 244, 258, 263, 272, 279, 496 et 497. Alors, certaines sont en partie, mais vous l'avez noté. Sur la passerelle forestière numéro 24, pour une surface de 17 hectares, pour le canton de La Verdière et Valampe, les parcelles cadastrales sont les IS 440, 441, 442, 443, 444, 452, 454 et 455 en partie. Par ailleurs, constatant le dépérissement des pins Larisio maritimes et Alep sur le mont Gossier et dans le vallon de Valrugue, une coupe sanitaire est projetée afin de supprimer ces sujets secs. En effet, l'Office national des forêts a établi un compte rendu en mars 2018 faisant été d'une attaque d'illésine de pins sur les parcelles forestières du Mont Gossier. Et cet îlot de pins est inélu et dans le périmètre de protection de biotope de la COM et dans ce site classé du plateau des Alpilles. C'est pour ça d'ailleurs que cette coupe a pris un peu de retard. Voilà, donc je vous demande d'autoriser le maire, comme d'habitude, à procéder à tout ce qu'il faut pour que nous puissions, un, vendre et deux, se débarrasser de ces pins malades.
Merci. Pas de prise de parole. Alors, je vous propose de passer aux voix sur les propositions de travaux de coupe de bois 2019 de M. Lapeyre. Qui est contre ? Pas de contre. Abstention ? Unanimité.
J'ai oublié l'unité que j'ai eu.
On passe maintenant au dossier finance. Première délibération donc, de ce chapitre finance. Il s'agit des allocations de vétérance pour les anciens sapeurs-pompiers volontaires. Donc, il reste aujourd'hui 5 anciens sapeurs-pompiers volontaires qui peuvent prétendre à cette allocation de vétérance. Et donc, il vous est proposé de la leur verser. Il le mérite amplement. Je vous rappelle le montant individuel, 353,88 €. C'est avant, je vous rappelle, qu'il soit départementalisé, donc c'est quand ils étaient encore communaux. C'est pour ça que, évidemment, le nombre, hélas, se restreint petit à petit. Donc, sur ces 5 allocations de vétérance, on peut délibérer. Qui est contre ? Abstention ? Unanimité ? Délibération suivante. Je vous propose d'adopter le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, au titre des compétences GEMAPI et eau pluviale. Alors, GEMAPI, c'est gestion des eaux, milieux aquatiques, prévention des inondations. Je vous rappelle que c'est une compétence qui a été transférée de par la loi de l'État pour partie et d'autres collectivités aux intercommunalités à partir du 1er janvier 2018. Donc quand il y a transfert de compétences, eh bien, il y a une commission, la CLECT, hein, commission locale d'évaluation des charges transférées, il y a une commission qui se réunit et qui calcule le coût pour, ben, par exemple, pour les communes, le coût de ce qui va être transféré à l'intercommunalité. Le coût de ce qui est transféré de l'État, là, malheureusement, il n'y a pas de compensation de personne, comme trop souvent d'ailleurs. Mais bon, bref, je reviens aux communes. Donc, on évalue pour les communes le coût de cette compétence. Et derrière, donc, c'est l'intercommunalité qui le prend en charge. Donc, on diminue à due proportion les attributions de compensation qui sont versées de l'intercommunalité aux communes. Donc, baisse des recettes pour les communes, mais aussi baisse des dépenses pour les communes, puisqu'elles n'ont plus la charge qui, justement, est transférée. Donc, à la sortie, ça fait une opération blanche, au moins la première année, pour les communes, et une opération blanche pour l'intercommunalité, qui, elle, voit ses dépenses baisser d'un côté et augmenter de l'autre. Donc, opération blanche pour l'interco, et aussi opération blanche pour la commune. Donc, on s'est mis d'accord, les 10 communes de l'intercommunalité, sur le montant que ça coûtait dans chaque commune. On a fait en sorte de pas trop pénaliser les communes, hein, de rester dans quelque chose de raisonnable. Donc, et aujourd'hui, il nous faut l'entériner en conseil municipal, sachant qu'il faut qu'il y ait une majorité qualifiée sur les 10 communes de la CCVBA. Donc, je vous rappelle ce que c'est la majorité qualifiée. Hein. C'est soit les 2/3 des communes qui représentent plus de la moitié de la population, soit la moitié des communes représentant plus des 2/3 de la population. Voilà. Avec, obligatoirement, l'accord de la ville-centre quand elle représente plus de 25% des habitants de l'intercommunalité, ce qui est le cas de Saint-Rémy et ce qui est le cas de Marseille, par exemple, dans la métropole. Je dis ça au passage.
Monsieur le maire, oui. Vous parlez de population, ça tombe bien. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous êtes arrivé dans le rapport au nombre d'habitants de Saint-Rémy à 11 201 habitants. On n'a pas compris du tout. On n'a jamais atteint ce nombre d'habitants. Vous avez contesté assez souvent et assez longtemps le fait que nous n'arrivions pas à 10 000 habitants. Et là, nous arrivons à 11 201 habitants. Donc, on n'a vraiment pas saisi pourquoi il y a un delta de 1 150 habitants environ.
Alors, monsieur Vallée connaît ça mieux que moi et complétera, mais...
À la page 16, oui.
Oui. En fait, l'INSEE a plusieurs modes de comptage, de comptabilité des habitants. Je pense que là, ils ont pris ce qu'ils appellent la population totale, plus, avec, il doit y avoir les résidences secondaires, les doubles comptes, etc., etc. Monsieur Vallée, je vous laisse répondre, parce que vous connaissez ça mieux que moi.
En fait, on est sur la population DGF. Donc, c'est une population qui est arrêtée par la préfecture. Sur la base de la population INSEE, à laquelle on rajoute effectivement, notamment les résidences secondaires, saisonnières, un certain nombre d'habitants de ce niveau-là, définis par la préfecture.
Ce qui voudrait dire qu'on en a 1100 environ. Ça me paraît énorme.
Ça a fait l'objet d'une réévaluation ces dernières années. On est effectivement passé d'un niveau de résidence secondaire d'environ 600 à 700 à un niveau de résidence secondaire de 1000.
Et bon, là, excusez-moi, mais je ne suis pas très convaincu, je ne comprends
pas
bien.
Dans les doubles comptes, j'ai plus tout en tête. Il faudrait qu'on le regarde dans les détails. On peut vous envoyer les chiffres dans les détails. Mais dans les doubles comptes de mémoire, il y a, par exemple, les étudiants qui sont au lycée agricole, il y a les gens qui sont dans les maisons de santé, etc., etc. En fait, on compte plus, on compte les habitants, plus tout le reste. Et c'est pour ça qu'on arrive à ce chiffre beaucoup plus élevé que les chiffres que nous donne l'INSEE. Mais c'est la même base pour toutes les communes. Hein. Donc il y a quand même une cohérence et Saint-Rémy n'est pas lésé, enfin n'est ni avantagé ni lésé, puisque on part de la même base pour toutes les communes.
On se demandait, oui, pourquoi. Et même sur pour les autres communes, donc c'est idem, c'est pareil. Et les personnes qui viennent travailler sur Saint-Rémy, elles sont comptabilisées dans ce total-là? Ou est-ce qu'elles sont...
Je pense qu'elle ne dorme pas sur Saint-Rémy, elle ne réside pas, donc elle, je ne pense pas. Mais on vous donnera le détail, parce que c'était intéressant d'avoir...
Oui, je crois qu'il s'agit de la notion de résident.
Ah oui, c'est la notion de résident. D'accord.
Bien, donc on revient donc à l'adoption de ce rapport de CLECT, Commission locale d'évaluation des charges transférées. Donc, qui est contre les propositions chiffrées que vous avez dans le dossier ? Pas de contre, abstention, unanimité. Oui ? Ah, excusez-moi, je n'avais pas vu. Donc, deux abstentions. Donc, c'est M. Milan et Mme Ingoglia, donc adopté à la majorité. Alors, le dossier suivant, il s'agit des admissions à non-valeur et créances éteintes. Donc, vous avez 539,56 € d'admission à non-valeur et 1 216 € de créances éteintes. La différence entre les deux, créances éteintes, ben, malheureusement, il n'y a plus grand-chose à faire. Elles sont perdues définitivement pour la collectivité. Les admissions à non-valeur, on peut faire encore un certain nombre de diligences et de temps en temps, il y en a un petit peu qui rentre, on ne récupère jamais tout, mais bon, c'est pas complètement fini ou complètement perdu. Voilà. Mais bon, on est sur des sommes quand même qui restent relativement raisonnables si on les rapporte aux 16 millions d'euros de section de fonctionnement. 539 € d'un côté, 1 216 € de l'autre. Voilà, mais pour comment dire, pour une bonne tenue de la comptabilité, toutes les années, on doit adopter les admissions à non-valeur et les créances éteintes, c'est ce qui vous est proposé ce soir.
Est-ce que vous avez pu remarquer si ce sont souvent les mêmes comment dire, les mêmes personnes qui arrivent en non-valeur?
Parce que
c'est un peu embêtant, quoi. Ça serait embêtant.
Pas forcément, parce que ce sont souvent des personnes qui sont parties de Saint-Rémy. Et qui D'accord. partent et qui laissent
des ardoises.
15 € de trucs, 12 € d'eau, etc., etc. Et qu'on a de la difficulté à retrouver. Donc, ce sont pas forcément les mêmes, puisque justement, D'accord. c'est souvent des personnes qui quittent, ou alors des établissements commerçants, artisans, entreprises qui mettent la clé sous la porte ou qui sont en redressement puis en liquidation. Donc, cela en général, c'est une fois, quoi. Enfin, il y a peut-être des spécialistes du genre, mais enfin, c'est assez exceptionnel quand même. Hein. C'est plutôt des fusions poux. Hein.
Occasionnels. D'accord.
Voilà. Mais bon, là, encore une fois, si toutes les années on est sur des sommes comme ça, ça reste raisonnable. On avait voté ou pas ? Non ? Alors, qui est contre ces propositions ? Abstention ? Unanimité ? Alors, ça, c'est un dossier qu'on avait déjà évoqué ici. Vous savez que les tarifs des transports scolaires ont augmenté brutalement cette année, hein, passant de 10 € à 110 €. Pour toutes les familles dont le coefficient familial est supérieur à 700, donc ça représentait pas mal de monde à Saint-Rémy, puisque j'ai quelques chiffres sous les yeux. Le nombre de familles rapporté au nombre total, évidemment, qui est emprunte des transports scolaires, dont le coefficient est inférieur à 700, c'est un peu plus d'un quart. C'est 26,15%. Donc cela, ils étaient exonérés. Ils ne payaient pas. Ils ne payaient toujours pas. J'en parle plus. Par contre, toutes les autres familles, elles sont passées de 10 à 110 €. Famille avec 4-3 enfants, ça fait 300 € d'un coup en plus. Bon, on s'est interrogé. On s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement faire, sachant que contrairement aux autres intercommunalités des Bouches-du-Rhône, métropole et les deux communautés d'agglomération au sud et au nord qui nous entourent, nous, communauté de communes Vallée des Bois-Alpilles, on n'a pas la compétence transport. Donc du coup, la communauté de communes ne peut pas intervenir dans le domaine. Donc on s'est posé la question, qu'est-ce que la ville pourrait éventuellement faire ? Donc ce qu'on vous propose ce soir... Pour cette année, hein, parce que bon, la hausse brutale a été subie cette année. Si l'année prochaine les mêmes chiffres sont reconduits, bon, ben, pensez que les gens auront provisionné ou voilà. Mais pour cette année, pour soulager les familles qui ont revenu un petit peu supérieur au coefficient 700, eh bien, on vous propose ce que vous avez donc dans la délibération. On vous propose donc 50 € pour ceux qui ont un coefficient entre 700 et 999, entre 700 et 1000, quoi, en gros. Et une aide de 40 euros par enfant, évidemment, pour ceux qui sont entre 1000 et 1200 de coefficients.
Ce qu'on propose dans la délibération, c'est d'identifier un budget. Un budget pour une subvention qui sera attribuée au CCAS.
Je suis allé trop vite.
Oui, voilà, parce qu'on n'avait pas ça du tout sous les yeux.
Je suis allé trop vite. Excusez-moi, je vais reprendre. Donc, ce que vous propose, effectivement, c'est d'attribuer un budget au CCAS et derrière, faire en sorte que le budget, vous l'avez sous les yeux, ça sera autour de 9 000 euros. D'accord? C'est l'avant-dernier paragraphe. Et derrière, le CCAS va s'occuper de la répartition. Qui pourrait être, si le CCAS en est d'accord. Mais bon, encore une fois, ça nous paraît raisonnable. Après, le CCAS, il aura une enveloppe, il le gérera comme il veut, mais il nous paraît très logique d'aider les familles qui sont en dessus du coefficient 700. Parce que c'est toujours le problème des frontières et des barrières, quoi. 0 à 700, ils ne payent rien, et vous êtes à 702, boum, d'un coup, vous payez 110 euros. Donc, amortir ceux qui sont entre 700 et 1000, et ensuite amortir un petit peu moins ceux qui sont entre 1000 et 1200. Après, ceux qui sont à plus de 1200, a priori, les familles les plus aisées, ben, celles-là, peut-être que, même si elles ont subi la hausse, peut-être qu'elles ont moins besoin d'aide. Quoi. Voilà. Donc, c'est la proposition qui vous est faite ce soir sur l'enveloppe globale et ce qui pourrait être l'aide que pourrait accorder le CCAS. Alors, pourquoi ces chiffres? Parce qu'en fait, quand on regarde, vous avez 27% des familles, 28 presque, qui sont entre 700 et 1000, et 16,95, bon, 17% qui sont entre 1000 et 1200. Ce qui veut dire qu'en fait, on arriverait à pratiquement 70% des familles aidées. Soit exonérées totalement, celle-là, bon, j'en parle pas, soit aidées en gros à hauteur de la moitié de la dépense pour celles qui sont entre 700 et celles qui sont entre 700 et 1200. Voilà, bon. Ça réglera pas tous les problèmes de ce bas monde, mais c'est un petit geste de la collectivité pour soulager les familles. Et pour avoir un ordre d'idée, une famille qui a un coefficient 1200, en gros, c'est une famille avec deux enfants, donc deux parents, deux enfants, et un revenu un peu plus élevé que deux SMIC, 2500, 2600 euros par mois. Voilà. Donc, toutes les familles qui seraient en dessous aurait soit une exonération totale, celle en moins de 700, soit une aide en gros de la moitié de la part de la commune. Voilà. Et puisqu'on est dans les chiffres, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir ces informations, il y a 413 enfants qui sont inscrits au transport scolaire, 413, et donc 108, ben, c'est le quart dont je vous parlais tout à l'heure, hein, 108 qui sont en dessous du coefficient 700. Donc 108 qui sont totalement exonérés, celles qui ont les revenus les plus faibles, bien sûr. Il en reste donc 305. Et sur ces 305, vous en aurez un peu plus de la moitié des familles qui pourraient être aidées si le CCAS suit proposition indicative. Voilà.
Monsieur le maire, ce sont des chiffres qui ne sont pas figés puisque les inscriptions peuvent se faire tout au long de l'année maintenant. Ça peut évoluer.
Tout à fait. C'est les chiffres à ce jour. On est bien d'accord. Voilà. Je ne sais pas si ça suscite des commentaires. Alors, s'il n'y a pas de commentaires, je vous propose d'approuver le versement d'un complément de subvention au CCAS d'un montant de 5 400 euros. Alors, expliquez-moi la différence entre 5 400 et 9 000.
Dans la mesure où le budget définitif n'est pas connu, on verse une première tranche de 5 400 et on complétera.
Parfait.
En cours d'année.
Vous êtes un bon directeur des finances. Vous. D'accord. Donc, en fait, ce qui vous est proposé, c'est de verser 5 400 et d'aller au maximum jusqu'à 9 000 euros. Voilà. C'est bon? Qui est contre cette proposition? Abstention? Unanimité. Alors, il vous est proposé une première décision modificative du budget primitif, donc adopté au mois de mars 2018. Bon, vous voyez qu'elle arrive début octobre, donc c'est que le budget était à peu près ajusté. Et quand on regarde les sommes, 15 000 euros en fonctionnement et 11 000 euros en investissement, on pense qu'on est sur des pourcentages extrêmement faibles. Hein. On est sur moins de 1% de nos prévisions budgétaires. Alors, deux mots sur les 115 000 euros de fonctionnement, évidemment en dépenses et en recettes. Sur les dépenses, nous avons 40 000 euros de plus sur le carburant. Il a échappé à personne que le prix du carburant a flambé. Alors, 40 000 euros, c'est ville et CCVBA. Vous savez que la CCVBA vient se servir et s'approvisionner donc à la réserve municipale. Et évidemment, la CCVBA rembourse derrière. Donc, vous avez 40 000 euros en dépenses, mais vous avez aussi 20 000 euros en recettes. Ça, c'est sur la partie que la CCVBA utilise. Donc, 40 000 en dépenses, 20 000 en recettes sur les carburants. 30 000 euros d'opérations légales de débroussaillement, ça c'est une opération d'ordre. On l'avait inscrit à l'investissement, mais Madame Touvoré souhaite que ça soit du fonctionnement. Bon, pourquoi pas, financièrement ça changerait pour la ville, hein. C'est toujours une dépense, c'est toujours la même somme. Simplement on le déplace de section en section. Bon, pourquoi pas. Donc du coup vous avez le jeu d'écriture, hein, sur dépenses et recettes. Il y a évidemment les 9 000 euros du CCAS dont on vient de parler, hein. Il faut bien les rajouter puisque ça arrive en cours d'année. Et il y a 36 000 euros de dépenses diverses. Qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? Sur ces 36 000, il y a 21 000 euros de maintenance des horodateurs en année pleine. Et diverses petites hausses de crédit, donc 15 000 euros 0,12. Bon, vous retrouvez les 36 000 euros. Voilà, ça c'est sur les dépenses. Sur les recettes, vous savez qu'on a délibéré pour inclure l'excédent du budget de la Massane. Vous vous rappelez du chiffre, hein, c'était 53 000 euros. Il y a donc les 20 000 euros de carburant de CCVBA dont je viens de vous parler. Il y a les 30 000 euros d'OLD dépenses recettes. Et il y a 12 000 euros de reliquats sur l'état 12,59 par rapport aux attributions de compensation. Post-clect GEMAPI. Voilà, donc quelques petites recettes de poche. Et tout ça fait donc 115 000 euros en dépenses et 115 000 euros en recettes, bien évidemment, pour équilibrer. Ça, c'est sur le fonctionnement. Et sur l'investissement, bon, la somme, c'est 11 118 euros, donc une somme très faible. Ce sont essentiellement des transferts de comptes, des virements du 21 au 23, des ajustements techniques. Bon, je passe, on est sur une somme vraiment, vraiment modique, quoi. 11 118 euros. Voilà donc pour cette décision modificative light, si je peux dire.
Monsieur le maire, vous avez parlé donc des horodateurs, on va dire. Oui. Est-ce que vous avez vu que la ville d'Arles donc en revient à une autre façon donc de faire payer les parkings et un petit peu comme nous l'avions demandé, ça fait très longtemps depuis le début de votre installation. En fait, à partir du samedi midi, les parkmètres seront gratuits. Ou 15h, allez. Oui, tu charries là, excuse-moi, mais bon, donc peu importe, 15 heures si ça te convient, mais en attendant, j'aimerais savoir quand est-ce que Saint-Rémy va bien vouloir s'aligner sur des villes comme Arles qui effectivement trouvent une solution pour que les usagers soient moins ponctionnés, on va dire, pour le stationnement. Ça, c'est la première question que j'avais à vous poser. Et la deuxième, c'était, vous vous souvenez que nous avions demandé à ce que les personnes âgées, j'aime pas trop ce terme, mais puissent avoir une possibilité de garer avec peut-être un badge particulier dans le cadre des permanences justement du foyer. Bon. Tout avait été refusé en bloc et ce soir, je réitère ma demande parce qu'on se disait que peut-être qu'il serait facile de mettre en place un système de badge au-delà de 75 ans, par exemple, en estimant que c'est à partir de cet âge-là, ou plus, ça serait peut-être à vous de voir, mais on a du mal à se déplacer, on a du mal à garer loin et ensuite venir faire des courses ou des choses comme ça. Est-ce qu'il ne serait pas facile, rien qu'avec une carte d'identité, de mettre en place donc un badge pour les plus de 75 ans, de façon à ce qu'ils soient beaucoup moins gênés dans leur... dans leur vie quotidienne avec les parkings. Un macaron, je sais pas, quelque chose. Parce que vous voyez, Arles est revenu quand même à des, même si c'est 15 heures, n'en déplaise à M. Colombé, c'est déjà bien. Parce que ça veut dire que tout le samedi après-midi est gratuit, tout le dimanche aussi. On est d'accord, Gabriel ?
Bien, Madame Aoun, si vous voulez qu'on parle d'Arles, on peut en parler, mais alors on parle de tout. Arles, la gratuité, c'est un quart d'heure. Saint-Rémy, c'est trois quarts d'heure. Premier point. Deuxième point, le macaron d'Arles, il est à 60 euros. Nous, on est à 15 euros. OK ? Donc, libre à eux, hein, ils sont tout à fait libres de faire ce qu'ils souhaitent. Moi, je vous l'ai dit l'autre jour, je suis très favorable à la souveraineté des communes, des conseillers municipaux. Voilà, c'est pas moi qui irai me mêler de ce qui se passe à Arles, pas plus que j'apprécierais que telle ou telle commune vienne de se mêler de ce qui se passe à Saint-Rémy. Nous, on débat ici à un conseil municipal et je trouve que c'est très bien.
Non, mais c'est passé sur le journal, donc forcément, ça attire le regard.
Oui, mais écoutez, moi, je vois pas pourquoi on priverait la ville de Saint-Rémy de ses recettes les plus importantes le week-end, qui sont payées par les gens qui viennent de l'extérieur. Et qu'on ne vienne pas me dire que ça a fait fuir les touristes, l'année dernière, au 1er octobre, on était à 413 000 euros de recettes. Cette année, on est à 483. Donc, voilà. Hein.
Alors, honnêtement, moi, les touristes, alors, ça me gêne moins. Mais les personnes âgées, ça me dérange.
Madame Aoun, quand vous proposez des pertes de recettes pour la commune, proposez en face des compensations. Vous voyez, je vous ai proposé une décision modificative. Elle est équilibrée. Dépenses, recettes. Donc, quand vous proposez des baisses de recettes, en face, dites-moi comment on compense. Par la fiscalité des Saint-Rémois, on augmente les impôts, par la diminution des subventions aux associations. Et non, mais c'est trop facile.
Non, mais le macaron, un macaron pour les personnes de plus de 75 ans.
Pas de problème. Comment on fait? Voilà. Arles a décidé de faire gratuit le week-end. Pourquoi pas? Moi, j'y suis pas favorable. Voilà. Aujourd'hui, on a un système qui fonctionne, qui va nous rapporter cette année environ 500 000 euros. Demain, oui, on peut très bien supprimer le stationnement payant. Il faudra trouver 500 000 euros ailleurs.
Je ne vous ai pas dit ça, monsieur le maire.
500 000 euros, c'est 7 points d'impôt.
Donc, je ne vous ai pas dit ça. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne vous parle pas d'augmentation d'impôt. Je vous dis simplement que il serait peut-être envisageable, et il ne faut pas voir que le côté rentrée d'argent, il me semble, parce que très souvent, selon ce qu'on vous dit, vous nous dites, mais la commune est en capacité d'absorber. Donc, très bien, on est content. Mais pour des personnes de plus de 75 ans, est-ce que vous ne pourriez pas tout simplement créer un macaron? Je ne vous demande pas la gratuité.
Mais Madame Aoun.
Mais non, mais vous n'écoutez pas. Un macaron spécifique pour les personnes du troisième âge ou quatrième, je ne sais pas, qui pourraient, avec ce macaron, aller dans tout Saint-Rémy sans respecter forcément les zones genre donc Jean Jaurès ou voilà. Parce que c'est l'âge où on est le plus embêté dans son corps, quoi, forcément, normalement. Même si il est plus cher, je veux bien qu'on mette un macaron, allez, on va dire à 30 euros, ou je ne sais pas, pour les personnes du troisième âge, pour qu'ils puissent circuler plus librement. Donc je vous propose, non pas d'augmenter les impôts, ça je ne vous l'ai pas dit, donc je reviens là-dessus, je vous demande simplement d'évaluer la possibilité de faire un macaron particulier à partir de la carte d'identité, ça me semble encore réalisable par les services, pour, ou du handicap, mais ça c'est pas pareil parce qu'ils ont un stationnement particulier, mais pour qu'ils puissent garer facilement. Point final, je vous laisse discuter et réfléchir sur cette possibilité. Je pense que vos concitoyens, vous en serez reconnaissant. Maintenant, vous faites comme bon vous semble.
Écoutez, votre proposition tout à l'heure, elle était en deux parties. Moi, je vous ai répondu sur la partie le week-end. Je vois que vous l'avez abandonnée et je pense que vous avez raison. Pour faire preuve d'ouverture et de trucs, je veux bien qu'on regarde à partir d'un certain âge ce qu'on peut éventuellement faire. Avec tous les problèmes qui peuvent se poser derrière. Le macaron, il est individuel, il est sur la voiture aussi, c'est quelqu'un d'autre qui la prend, comment on fait. Enfin, c'est pas aussi facile que ça à mettre en place. Mais bon, pour nos anciens, je veux bien qu'éventuellement on regarde. Si ça pose plus de problèmes que ce que ça en résout, ben on laissera tomber. Si c'est faisable et si ça concerne une poignée de personnes, bon, je veux bien regarder, hein, pas complètement obtus. Mais je vous rappelle encore une fois que les parkings, c'est nécessaire. Sinon, il faudra qu'on trouve des recettes autre part.
Voilà. Non, non, mais je ne vous ai pas dit ça.
Je veux bien qu'on regarde pour les personnes...
Voilà.
Voilà, 75, 80, les... 85.
Oui, voilà, pas. Après c'est à vous de voir, hein, à quel bar vous mettriez le macaron spécial.
On vient de faire un geste pour les scolaires, je veux bien qu'on regarde, mais encore une fois, après, à la mise en application, c'est... voilà.
Non, mais là, ce qui serait quand même bien, c'est que ce ne serait pas en fonction des revenus. Ça serait en fonction de l'âge, c'est complètement différent, puisque pour les jeunes, c'est basé sur les revenus. Les personnes âgées, elles ont travaillé toute leur vie, elles ont l'âge qu'elles ont. Ça serait peut-être beaucoup plus juste.
Oui. Après, la prochaine fois, on risque de nous dire les chômeurs, les gens qui sont à la salle. Et... bon. Mais bon, pourquoi pas ? On peut regarder. On peut regarder.
Voilà. Moi, je vous soumets une idée.
Très bien.
À vous de voir.
Bien. C'est dit. On revient donc à la décision modificative numéro 1. Qui est contre cette proposition de DM? 8 contre. Abstention. Adopté. Alors, maintenant, les affaires qui concernent le personnel. Monsieur Faverjon.
Oui, donc cette première délibération, c'est suite à un départ à retraite d'un agent titulaire. Il vous est proposé un recrutement d'un agent contractuel pour le remplacer. Et donc, la délibération qui vous est proposée va en ce sens. C'est un agent qui travaillait à l'école de la République.
Parfait. C'est bon. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Unanimité? Ensuite?
Une autre délibération, donc c'est un contrat, une proposition de recrutement d'un agent contractuel pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Et il vous est donc proposé un recrutement pour une période de 6 mois renouvelable au grade d'adjoint administratif.
C'est bon ? Qui est contre ? Abstention ? Unanimité ? Pardon ? 8 abstentions ? Adopté à la majorité.
Ok. Donc, une délibération qui concerne le contrat d'assurance des risques statutaires. Donc, c'est via cette délibération et via la société d'assurance CNP Assurance, si on délibère favorablement, que la commune, lorsqu'un agent est malade en accident du travail ou en congé longue maladie ou congé longue durée, perçoit une compensation liée au salaire qui est quand même versé à l'agent par la commune. Donc, cette délibération, on l'a déjà vue lors d'un conseil municipal précédent il y a quelques années, nous amène à cotiser à hauteur de 2,76% sur la masse salariale de la commune et à ajouter 0,10% de frais de gestion sur la masse salariale assurée. Donc, encore une fois, ça permet à la commune de toucher une reversion à remboursement lorsque les agents sont en accident du travail, en maladie professionnelle ou en congé longue maladie ou congé longue durée. Ceci étant, pour les congés longue maladie, congés longue durée, il y a 180 jours de franchise.
Parfait. Là aussi, on peut passer aux voix. Qui est contre ? Abstention ? Unanimité ? Ensuite ?
Alors, toujours au chapitre des assurances. Donc là, c'est la délibération qui est proposée pour permettre à la commune de proposer aux agents qui le souhaitent d'adhérer à une mutuelle complémentaire, donc en l'occurrence la MNT, tout ça après un appel d'offres auquel on a participé via le CDG. Donc par cette délibération, les agents qui le souhaitent pourront adhérer à la MNT et la commune s'engage, comme on le faisait d'ailleurs précédemment, à verser une participation mensuelle qui est fonction du salaire et qui varie de 10 euros à 25 euros par mois et par agent assuré. Après, si les gens ne souhaitent pas adhérer à cette assurance complémentaire, ils ont le choix, mais ils ne percevront pas la petite participation de la commune, la participation mensuelle.
Merci sur cette adhésion. Qui est contre ? Abstention ? Unanimité ? Alors, on a fini avec les dossiers de personnel. Dossier petite enfance, intégration des communes au RAM. Madame Bouquet.
Oui, donc il s'agit d'intégrer les communes de Montlégès, Plan d'Orgon, Saint-Étienne-du-Grès et le Paradou au sein du relais assistant maternel Alpine Montagnette. Donc ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec ces communes pour qu'elles intègrent. Lors de leur dernier conseil municipal, ses membres se sont prononcés favorablement. Le 19 septembre, le conseil syndical du RAM a également émis un avis favorable. Donc je demande donc au conseil municipal de se prononcer favorablement sur l'intégration des communes Le Paradou, Montlégès, Plan d'Orgon et Saint-Étienne-du-Grès au relais assistant maternel Alpi-Montanette.
Ce qui portera le nombre de communes à 7 plus 4.
Hein, oui.
7 aujourd'hui et 4 en plus ce soir, ça ferait 11. Si le conseil municipal en est d'accord, évidemment. C'est bon ? Alors, qui est contre l'intégration de ces quatre communes ? Pas de contre. Abstention ? Unanimité. Alors, à nouveau, M. Favergeon, mais cette fois pour les dossiers économiques.
Voilà, c'est l'autorisation d'ouverture dominicale des commerces de détail alimentaire pour l'année 2019. Donc, c'est un établissement de Saint-Rémy, Picard, en l'occurrence, Picard surgelé, qui demande une autorisation, et c'est pour ça que nous délibérons, une autorisation pour pouvoir ouvrir son établissement les dimanches 1er, 8 et 15 décembre 2019, et les dimanches 22 et 29 décembre 2019. Alors, si on passe cette délibération, en fait, qui n'est pas obligatoire dans une commune touristique comme la nôtre, c'est parce que Picard est une enseigne nationale, internationale peut-être d'ailleurs, je sais pas, et que donc eux, ils doivent grouper ça, je pense, dans toutes les communes où ils sont, où ils ont des commerces, quoi. À partir du moment où on aura voté cette délibération, l'ensemble des commerces de détail alimentaire sont susceptibles d'en bénéficier, mais encore une fois, dans une commune touristique, c'est pas une obligation. Voilà.
On l'a passé l'année dernière, l'année d'avant, enfin toutes les années. Bien, sur cette autorisation d'ouverture, qui est contre ? Abstention ? Unanimité ? Alors, on vous propose maintenant une dénomination de voie privée à la demande des habitants de cette voie. En fait, il s'agit d'une voie d'une longueur de 230 mètres. Qui est perpendiculaire à la route départementale 571, donc la route des Ragues Avignon. C'est la voie donc qui est perpendiculaire sur la gauche, en sortant de Saint-Rémy en allant vers les Ragues, juste avant le garage Ayo. C'est là où il y avait, c'est un lotissement là qui a été aménagé par la famille Pascal il y a quelques années. Donc, les gens qui habitent dans cette voie aujourd'hui ont pour adresse Avenue de la Libération, ce qui n'est pas facile pour eux parce que ça ne saute pas aux yeux. Non, j'ai dit Avenue. Autant pour moi, vous avez raison, j'ai dit une bêtise. Pardon ? Oui, Avenue Albert Schweitzer, oui, évidemment.
Voilà, d'accord.
Donc, du coup, c'est tout un tas de numéros sur les mêmes impasses. C'est un peu compliqué pour le facteur, pour les livreurs, pour tout le monde. Donc, ils souhaiteraient avoir une dénomination. Ça nous paraît logique parce qu'aujourd'hui, il doit y avoir, 15, 20, 25 maisons. Il y en a un certain nombre, donc, dans cette voie. Et on vous propose de la dénommer Chemin du Clos Pascal, du nom du premier qui a aménagé un lotissement dans cette voie. Sur la carte qu'on a, oui, il y en a une bonne quinzaine, oui. Tout à fait. Voilà, mais vous savez que les dénominations de voix, ça doit passer un conseil municipal, donc c'est pour ça qu'on vous le propose ce soir. C'est bon ? Alors, qui est contre la dénomination de ce chemin privé ? Chemin du Clos Pascal. Pas de contre ? Abstention ? Unanimité. On en a terminé avec l'ordre du jour du conseil municipal. Il y a des questions diverses. La parole est à vous.
Alors, monsieur le maire, avant de lire les questions diverses, je voudrais vous interpeller au sujet du tract que vous avez fait distribuer pour inciter nos concitoyens à aller voter le 2 décembre. Nous avons recueilli des réactions très négatives de nombreux Saint-Rémois qui ont été choqués par la présentation de ce tract. Ce sentiment d'émoi, nous le partageons. En effet, la couleur de l'affiche, les drapeaux entrecroisés, le vocabulaire utilisé et surtout le titre « Appel à la mobilisation » rappelle les heures sombres des deux déclarations de guerre de ce siècle, celle du 1er août 1914 et celle du 2 septembre 1939. Souvenons-nous que plus de 8 millions de Français étaient mobilisés pour chacune d'elles et que de nombreux morts au combat ont été à déplorer. Alors, cette affiche, elle est vraiment de mauvais goût et fait mal à tous ceux qui ont vécu cette période tragique, ainsi que les citoyens français que nous sommes. Monsieur le maire, on pense que vous vous égarez. Nous ne sommes pas du tout en guerre. Merci de m'avoir écouté. Je passe maintenant aux questions, à moins que vous ayez quelque chose à dire.
Ce n'était pas inscrit dans les questions diverses, mais bon, je vais quand même vous répondre. Hein. Moi, je peux vous apporter les témoignages de nombreux Sérémois qui sont ravis d'être informés de ce qui pourrait leur arriver si demain il y avait une évolution institutionnelle sur notre territoire. Voilà, donc, bon.
Encore une fois, nous devons vraiment rencontrer des personnes différentes. Alors, première question.
Et puisque vous avez abordé le sujet, Madame Aoun,
oui.
Lorsqu'on a délibéré il y a 15 jours, vous nous avez dit, vous êtes isolé, il n'y a que vous qui allez délibérer. Mmh. Vous avez vu que depuis, les choses ont évolué. On en est à 5 communes qui ont délibéré pour organiser des consultations. Mmh. Il y en aura peut-être bientôt une 6e, peut-être sous une autre forme. Mmh. Et aujourd'hui, ça représente plus de la moitié des habitants du Pays d'Arles. Donc,
alors, là, vous...
on n'est pas aussi isolé que vous avez pu le dire il y a 15 jours. Et vous avez vu aussi que dans notre pays, les choses bougent rapidement, quoi. Notre ministre de tutelle, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, il a démissionné. Il va y en avoir un autre. Donc, vous voyez, les choses bougent. Donc,
vous avez dû voir aussi comme moi qu'aujourd'hui...
ne sont pas aussi figées que certains veuillent bien le dire.
Oui.
Quant à la, virulence de certains tracts, je les ai pas amenés, c'est dommage, mais je pourrais vous en ressortir... qui était particulièrement gratiné sur la métropole. Mais bon, ça fera l'objet...
Ah non, mais ça, c'est pas du tout la même chose. Moi, je vous parle simplement au titre de la forme de ce tract, c'est tout. Alors, je vous ai dit ce que nous avions entendu comme retour. Effectivement, je trouve que bon, le vocabulaire est quand même dur, quoi. Appel à la mobilisation. Ensuite, nous avons entrons en résistance. Enfin, je veux dire, ce sont vraiment des mots de guerre, quoi. Bon, vous en assumez la responsabilité, très bien. Pour finir, je vous dirais qu'effectivement, les choses changent, bougent, évoluent. Vous avez dû lire. Comme moi aussi, parce qu'il ne faut pas non plus lire que ce qui nous va, qu'il y a quand même 20 communes sur 29 du pays d'Arles qui se sont retrouvées dernièrement, et donc qui sont tous d'accord pour travailler avec Martine Vassal et la métropole afin d'arriver à créer une nouvelle métropole. Donc, effectivement, tout évolue.
Vous me la définissiez, Madame Aoun, la nouvelle métropole.
Alors, jusqu'à preuve du contraire, je ne fais pas partie de ceux qui travaillent sur ce sujet-là. Je suis désolée, ça m'aurait intéressé, mais je ne suis pas élue. Non, puisqu'apparemment, ce ne sont que les maires, députés, voilà. Donc, non, je n'en fais pas partie. Simplement, j'ai mon idée là-dessus, mais c'est tout. Et j'attendrai, comme vous, de voir les propositions qui sont faites avant de crier à la guerre et de dire « attention, on va passer, enfin, quelque chose d'affreux, quoi », qui rappellerait effectivement les temps des heures sombres. Voilà. Donc, moi, je pense que, isolé, vous l'êtes toujours, je suis désolée de vous contrarier, parce que 20 communes sur 29, je trouve que ça fait quand même une grande majorité de communes qui ne vous suivent pas dans votre démarche, et qu'en fait, donc, il est intéressant de voir ce que vont proposer ces 20 communes, et que peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, vous direz, ben oui, ça, là, je ne suis pas d'accord, là, je suis d'accord, mais... ce sont quand même 20 communes qui sont une force de proposition. Voilà. Donc, je pense que il faut quand même les entendre. Il faut y réfléchir, et il ne faut peut-être pas se buter et s'isoler davantage, parce que je crains pour notre commune et pour nos sœurs et moi. Alors après, vous avez dit dans le tract que les impôts vont augmenter. Je voudrais simplement vous signifier quand même que l'on rentre dans une interco unique du pays d'Arles, ou que l'on rentre dans cette nouvelle métropole, nouvelle version, on va dire, de toute façon, l'imposition va augmenter. Vous savez très bien que Arles est une ville qui est...
Arrêtez.
Bon, ben j'arrête. Allez.
Mais non, mais c'est pas dans les mêmes proportions. Enfin, vous le savez, sur le versement de transport, par exemple, si on a une structure, vous voyez, je parle même pas d'une communauté d'agglo unique, mais si on a une structure autonome sur le pays d'Arles, on pourra limiter l'augmentation à 0,15, 0,20. Si on rentre dans la métropole, ça sera 2%, 10 fois moins. C'est pas la même chose.
Alors, vous, je vous pense savez, que...
On a la fiscalité la plus basse des 4 intercommunalités.
Oui, non, mais ça, je...
Donc, d'accord, nous, forcément, mais... on augmentera. Si c'est une structure unique sur le pays d'Arles, on augmentera un
on
petit
augmentera,
peu.
Oui.
Si c'est à la métropole, on augmentera beaucoup. Moi, je préfère, pour nos concitoyens, qu'on augmente un petit
pour
peu.
Pour le moment, on ne le sait pas, quand
et
même.
Et on aura des manières de se faire entendre qui seront plus importantes si on est sur un territoire de 170 000 habitants où on en représente 30 000, que si on est sur un territoire de 2 millions où on en représente 30 000. Vous le savez, ça.
Oui,
vous
alors savez. Moi, ce que je donc, peux vous dire aussi...
Commun, je pense qu'il mérite d'être mené, parce que si on peut épargner un peu de fiscalité pour nos concitoyens et rajouter un petit peu de proximité dans la future structure qui va se faire, oui. Eh bien, on aura au moins obtenu ça. Voilà. Si on dit amen de suite et si on dit...
Non, non, on ne dit pas amen.
Il ne faut surtout pas communiquer.
Non. Si vous avez bien lu aujourd'hui, tout le monde dit nous ne voulions pas de la métropole telle qu'elle se présentait jusqu'à ce jour.
Oui.
Et donc, eh bien, voilà. Donc, et il y a une évolution dans
là, on est dans la politique
dans la nouvelle... fichée.
Vous avez le projet de loi qui définit la nouvelle métropole, vous l'avez ? Moi, je ne l'ai pas. Hein.
Non, mais par contre, mais voilà. Ce que je tiens à vous... Oui, mais alors, vous n'avez pas non plus travaillé sur suffisamment...
On n'a pas travaillé ?
Non, attendez. Attendez. Suffisamment sur la seule interco unique du pays d'Arles. Pour moi, ce que j'ai entendu sur la seule interco unique donc du pays d'Arles ne me satisfait pas. Pas plus que ça, je n'ai pas plus de preuves d'un côté que de l'autre. Ensuite, ce que je voudrais vous dire, c'est que on n'a pas, ce n'est pas forcément une idée politique, puisque vous avez quand même monsieur, donc le maire de Nove, qui est
mais c'est, je vous,
à gauche toute.
Moi, je vous parle de fiscalité, de compétences,
oui,
de proximité, de gouvernance.
Non, mais je prends tous ces gens qui sont maires pour des personnes responsables, intelligentes, qui cherchent, qui discutent, qui vont proposer quelque chose à Martine Vassal, d'accord ? Donc, monsieur Gine, oui, c'est non,
Madame
de Nove.
Il y a
c'est
aucun
vraiment...
problème. Je l'ai dit l'autre jour en conseil communautaire. Moi, j'ai aucun souci pour discuter avec Martine Vassal. Franchement,
oui.
Aucun problème là-dessus. Mais c'est
à
pas
condition
là-dessus.
De la rencontrer.
Vous savez, c'est ni Martine Vassal ni nous qui ferons la loi. C'est le Parlement sur proposition.
Ah mais oui, ah mais je suis d'accord.
Du gouvernement.
Donc, ah mais moi, je suis bien d'accord.
Situer, à quel niveau il faut situer la discussion ? Voilà, c'est ça le truc. Et si on veut se faire entendre, je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre solution dans la mesure où on nous a refusé de débattre en conseil municipal du projet d'interco unique. Vous le savez, on en a
oui, bien sûr.
La procédure a été interrompue. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui comme autre solution pour se faire entendre que de faire appel à la population ? Voilà.
Eh bien, il y a une deuxième voie qui consiste à décider ensemble, les 20, alors là, il y a déjà 20 communes sur 29 qui veulent décider ensemble de l'avenir, donc, de cette nouvelle métropole qui ne fonctionnera pas comme l'ancienne.
Écoutez, moi,
qui aura, mais bien sûr, attendez de voir.
Promesses,
oui, mais les promesses, elles vont, elles viennent dans tous les camps, hein. Ça, c'est le monde politique qui le veut. C'est comme ça, hein. C'est pas nouveau, ça ne changera pas. Voilà. Ça fait des siècles que nous sommes dans les promesses, hein. Donc,
moi je voilà. Propose que les sœurs et moi s'expriment clairement sur ce qu'ils veulent en matière de fiscalité, de compétences,
oui, bien sûr.
De proximité,
surtout,
bien sûr. Oui, bien sûr. Oui,
oui. Et oui. Surtout, n'oubliez pas de leur dire, quand même, de glisser le bulletin oui. Ça, j'ai beaucoup aimé sur votre tract.
Attendez, vous voulez bien qu'on passe aux questions parce qu'il est tard.
Attendez, madame Aoun, attendez, je vous en prie. C'est vous qui lancez le débat et maintenant vous dites on arrête. Non, non, mais bon, attendez.
Moi, si vous voulez, on peut continuer, mais d'habitude, c'est vous qui dites ça.
Je vous rappelle que c'était pas inscrit à une question diverse.
Eh bien, justement. Justement, d'habitude, c'est vous qui coupez.
On a débattu, je vous ai répondu, ce qui me paraîtra la moindre des choses. Maintenant, vous me dites ça suffit, on passe à autre chose.
Eh bien, parce que d'habitude, c'est vous. Vous dites toujours, c'est trop tard, ça fait pas partie des questions diverses.
Non, c'est trop tard.
Les gens veulent aller se coucher, voyez.
Bon, écoutez, de toute façon, je pense que sur ce sujet, il n'y aura pas de consensus autour de cette table ce soir. Donc,
je pense pas, non.
Alors, dites-nous.
D'accord. Alors, fête de Saint-Rémy. Comme vous, sans doute, nous avons constaté la baisse de fréquentation des différentes animations proposées lors des fêtes de Saint-Rémy. Cette remarque est confirmée par de nombreux commerçants et forains et par des Saint-Rémois. À quoi attribuez-vous cette désaffection ?
Alors, moi, j'ai pas les mêmes, j'ai pas les mêmes ressentis que vous, madame Aoun. Au Tao d'Or, il y a eu plus de monde que l'année dernière. On a les chiffres, les
arènes. Sauf que les arènes n'étaient pas pleines.
Madame
Aoun, si vous dites qu'il y a plus de monde que l'année dernière, Tao d'Or,
Madame Aoun,
les défilés des métiers d'acier, bon.
Madame Aoun.
Oui.
Comment vous savez qu'il y a moins de monde ? Qui le dit ? Les commerçants ?
Alors, les forêts. Forcément
les forêts, j'ai rencontré après la fête Vautier, on fait toujours un apéritif pour savoir ce qu'ils veulent ou ils ne veulent pas. On a rendez-vous pour l'année prochaine, au mois de en février, pour discuter ce qui va, ce qui ne va pas. Après, vous êtes allé à la gaz ?
Oui, il y avait du monde.
Vous lui dites qu'il n'y a personne. Et là, vous me dites qu'il y a du monde.
Personne. Bon, j'ai dit qu'il y avait une baisse de fréquentation.
Une baisse de fréquentation, c'est tout. Je vous parle des arènes. Les arènes, c'est comme ça. Les courses aux as, c'est... Ça fait comme ça. Un jour, ça monte et ça descend.
Ça varie.
Il n'y a que le Tao qui, c'est toujours pareil. La course de lundi, c'est la course de lundi. Il a fait froid. C'est tout à fait logique qu'il y avait peu de monde. Le dimanche, c'est la course des As. Malheureusement, c'est comme ça. On a un problème avec la Fédé et surtout les raseteurs qui parcourent, qui se disent As. Bon. Après, le samedi des fêtes, il y a le bal. Il y a un petit monde.
Oui.
Non. Après le problème, comment on fait pour faire amener du monde ?
Non, mais...
Il faut des moyens. Vous me donnez 30 000 euros de plus, vous verrez que je vous en trouve des moyens, moi. 30 000 euros, je demande 30 000 euros. Et c'est facile de dire, les fêtes Saint-Rémy, c'est... oui, mais... Les commerces, je veux parler aux commerces. Moi, j'ai vu dans les bars ou les restaurants, il y a eu du monde qui mangeait. Les forains, ils sont bien bravos, mais 5 euros le tour pour les enfants. Vous savez combien ça coûte 5 euros quand vous avez mis
chez 4 petits-enfants.
Eh oui, mais tu le sais. Alors, il ne faut pas dire... Non. Après, le problème, c'est les fêtes, quelles que le soient, elles varient. Et puis, bon, il manque d'argent. Les gens... c'est dur, hein. Il y a des sacrifices, hein.
Moi, il y a un bal qui m'a énormément choqué. C'est le bal du mardi.
Oui.
Où, photo à l'appui, l'orchestre jouait à 19h.
Il n'est pas là, le bal. Là. C'est le soir qu'il y a le bal.
Alors,
Le soir. Après, écoute-moi, Dany, je vais te dire quelque chose. Il n'y avait pas le feu d'artifice. Mais tu sais comment ça coûte un feu d'artifice ? C'est entre 7 000 et 8 000 euros, un beau. Et il nous fait un prix. Parce que c'est depuis on travaille à la même société.
Ah, mais je sais que ça, c'est cher.
Ça coûte 10 000 euros, un feu d'artifice. Moi, je veux bien que le mardi, il manque le feu d'artifice le mardi pour amener le monde le soir à 22h. Je suis d'accord, mais il me faut des pesetas. Sinon, pas pesetas, il n'y a rien.
Voilà. Bon, Christian, tu veux parler, je crois.
Surtout pour le samedi.
C'est bien beau de faire les gaz de l'après-midi.
Oui.
Avant, il y avait le défilé des vieux métiers à 17h. Oui. Ça a amené du monde.
Oui, mais écoute, Christian, tu n'es pas au comité des fêtes.
Non.
Tu n'es pas au comité des fêtes. C'est pas la mairie qui organise, c'est le comité des fêtes. Le comité des fêtes a fait un choix, respecte-le, un peu c'est tout.
Je veux bien le respecter, mais ça, mais alors, ça vit de ses amis. Hein.
Tu peux critiquer. Alors non, tu rentres au comité des fêtes, tu viens à critiquer. Stop, on arrête là. Parce que moi, j'écoute moi, hein, tous les gens, je me prépare pour les fêtes votives, que ce soit férié, tout ça. Pendant un an, on se bat pour, on essaie de faire quelque chose de bien. Tout n'est pas parfait, je reconnais. Mais après, au lieu de critiquer, vous rentrez au comité des fêtes et vous venez discuter. Bravo. Voilà. Moi, je discute pas plus, hein. Vous rentrez et puis on discute.
Alors, simplement, je voudrais te dire que...
Si tu veux, moi, je rentre au comité des fêtes. Moi c'est volontiers. Essayer de faire changer que le samedi, ce soit animé à CNMI. C'était mort cette année, CNMI. Je te dis franchement, moi je trouve mort.
Alors, premièrement, Michel, je suis désolé si tu penses qu'on s'est attaqué à toi personnellement, parce qu'apparemment, tu le vis comme ça. Mais par contre, Michel, je veux simplement te dire que pour la ville, je pense qu'on a donné, alors peut-être pas maintenant, sûrement pas maintenant parce qu'on ne fait pas partie du comité des fêtes, mais tu dois savoir, puisqu'on se connaît suffisamment pour que tu le saches, que toute ma famille, pendant des années, a fait partie du comité des fêtes. Il n'y avait pas d'employés municipaux qui aidaient pour mettre les barrières, pour faire quoi que ce soit. Tu le sais, tout ça. D'accord. Alors ne nous dis pas qu'on a le droit que de se taire. On a aussi le droit de donner notre impression sur les fêtes.
Il y a quatre questions diverses. Hein.
Voilà. Alors on continue. Alpilium. Malgré nos demandes répétées, nous n'avons toujours pas le document de bilan de l'exploitation de l'Alpilium. Serait-il possible enfin d'en disposer?
Alors, vous l'aurez lundi prochain, 8 octobre. Lundi prochain, 8 octobre, vous aurez le document. Monsieur Lagadec y est dessus. Comme vous avez eu les chiffres 2016-2017, 2015-2016, vous aurez les chiffres 2017-2018. Je rappelle que la saison va jusqu'à la fin juin. Donc, vous aurez tout lundi prochain. Et je profite de l'occasion pour dire que en matière de dépenses culturelles sur l'Alpilium, on est particulièrement transparent puisque tout passe en décision. Donc vous avez les chiffres des entrées, vous avez les recettes, vous avez les coûts des spectacles, etc. etc. Donc plus transparent que ça, on ne peut pas faire.
Voilà, mais c'est pour ça, c'est bien, on l'aura.
Oui, vous aurez tout. Et puisque c'est un sujet qui vous passionne, je vous rappelle qu'à la métropole, c'est le bureau qui vote les subventions, d'accord ? Les 240 élus métropolitains, nous ici en conseil municipal, la moindre subvention de 1 000 euros, elle passe en commission bilocale et ensuite elle passe en conseil municipal. À la métropole, les 240 élus métropolitains, ils votent le budget global et derrière, la répartition des subventions qui portent sur plusieurs dizaines de millions d'euros, hein, c'est colossal, hein, c'est tout Marseille, tout Aix, c'est les 92 communes, ça passe en bureau, ça passe même pas devant les élus, je vous parle pas des commissions. Voilà, donc voilà un argument supplémentaire pour dire que ce fonctionnement-là, si demain on en change, il y en a beaucoup autour de la table qui, enfin, vous allez me dire, on n'y siégera plus, donc on ne sera pas surpris, mais il y en a beaucoup qui risquent d'être surpris, enfin, pour le peu qui continueront à y siéger. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un fonctionnement transparent, ouvert, tout l'argent public, tout le monde sait où il passe. Là, les subventions sont délibérées en bureau, parce que le conseil métropolitain a donné ce pouvoir au bureau. C'est comme si, à la mairie, les subventions étaient votées en conseil d'adjoint. On vote une somme globale à début d'année, et puis pendant toute l'année, vous ne voyez plus rien passer. C'est décidé en conseil d'adjoint, il n'y a aucune transparence, etc., etc. Bon, voilà. Je vous le signale au passage. Bien, donc vous l'aurez le 8 octobre.
Troisième question. Par rapport à la piscine, enfin, qu'on appelle gonflable, pouvez-vous nous présenter un bilan d'exploitation de la piscine donc pour les mois d'été, au niveau donc de la fréquentation, de la comparaison avec l'année dernière, des coûts de fonctionnement?
Oui, sur le... Oui, après, je te passe la parole à Michel.
Non,
sur les coûts, c'est là, on va vous le faire passer. 53 370 euros 18. Ça, c'est le coût. Et sur la fréquentation, c'est donc 4 000 euros de moins que l'année dernière, qui s'explique par des essais de chloration et changement d'une pompe en cours d'été qu'on a eu l'année dernière, qu'on n'a pas eu cette année. Donc ça explique les 4000 euros de bruit. Quant à la fréquentation, il y a une légère baisse de 300 entrées. On est autour de 4000, je ne sais pas combien, 3700, 4000. Voilà, on est autour de 4000 visiteurs sur les deux mois d'été. Alors pas tout à fait deux mois d'ailleurs, parce que je crois que c'est du 6 juillet.
Ça fait une moyenne.
6 juillet au 32, donc ça ne fait pas tout à fait deux mois.
Voilà. 4000 entrées sur deux mois, c'est ça ?
1716 entrées. Les 4000, c'était l'année dernière.
3716 sur donc 60 jours, c'est ça ?
Un peu moins, parce que c'est enfin, le 6.
Parce que nous, le jour où nous y sommes allés, c'était en pleine canicule. Il était 16 heures. Et il y avait, on va dire, à peine 40 personnes ce jour-là. Donc on a discuté avec la personne qui était là, avec des personnes qui étaient là et qui nous ont dit bah encore aujourd'hui il y a du monde, d'habitude il y en a moins. Dixit, les personnes qui étaient là. Voilà. On a vu effectivement que c'était très 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 clair dans les bassins et on se disait que les moniteurs finissaient peut-être par s'ennuyer. Voilà. Mais bon.
Et sinon il y aurait des noyés.
Oh non, il y a d'autres choses à faire quand même. Il y a des animations, il y a... Ben non. Michel, tu es agressif ce soir. Quatrième question.
Aucun agresse.
Ben non, mais on n'est pas... Non, non, on ne t'a pas agressé. La grande, oui. Oui.
Vous êtes.
Oui, avec des navettes.
Mais bon. Vous avez voté contre la piscine couverte, donc bon.
La piscine couverte. J'ai pas entendu. Oui, excusez-moi.
Vous avez voté contre le projet
de
piscine.
Ah oui. Donc bon. Oui, mais enfin, entre les deux, il y a peut-être quelque chose à trouver malgré tout. Quatrième question. Travaux de voirie de l'avenue de la Libération. Les travaux d'aménagement de la voie de la Libération vont bientôt commencer. Pourriez-vous nous indiquer quelles sont les dispositions particulières que vous prenez en matière de circulation, accès, entrée, sortie, avenue de la Libération? Accès parking des Cèdres, sens de circulation rue Saint-Joseph, déviation, enfin tout ce qui peut être mis en place pour faciliter.
Alors oui,
à Mahoune, on a délibéré sur le choix des entreprises il y a fin septembre. C'est parti à la préfecture. Le retour de la légalité. On va notifier le marché, je crois, d'ici la fin de la semaine. Après, comme vous le savez, les entreprises ont leur un mois de préparation pour justement, comme vous dites, regarder la circulation, les travaux, tout ça. Ils devraient, après, ils vont venir nous les présenter. En ce moment, ils travaillent, donc je ne peux pas vous répondre encore à votre question. Ils y travaillent, c'est leur mois de préparation. Ils vont venir nous rencontrer vers le 10-15 octobre. Et après, la réunion publique avec tous les administrés,
je vous convie,
là, tout sera expliqué. Et on vous dira, la rue, combien de temps elle sera barrée. C'est sûr qu'il y aura une déviation, c'est sûr que la rue sera barrée. Mais on en saura plus par les entreprises, ils sont en train d'y travailler dessus.
C'est-à-dire que vous, par exemple, vous ne pouvez pas suggérer ce qui vous paraît, alors que vous connaissez bien la ville, quoi.
Avant la réunion publique.
D'accord. Jusque-là, vous ne pouvez pas me dire. D'accord. Donc, on lance des travaux sans savoir où on va faire passer les gens.
Madame Aou. Madame Aoun, les travaux, ils ne sont pas lancés, ils n'ont pas démarré, en fait.
Alors, rappelez-moi quand est-ce qu'ils doivent commencer.
Les entreprises ont un mois de préparation. C'est la loi. On ne peut pas y échapper. C'est là que le travail pourra nous présenter leur préparatif pour les travaux. Donc nous, on les reçoit en aval quand ils ont tous ces dossiers-là. Et c'est là qu'on peut dire notre mot. Oui ou non, c'est mieux comme ci, c'est mieux comme ça. À l'heure d'aujourd'hui, votre question, je ne peux pas y répondre. C'est tout.
Et les travaux doivent commencer quand?
Les travaux commenceront début novembre.
D'accord. Dans un mois, oui.
Très, très fraîchement, sur les chantiers qui se sont déroulés. l'avenue Louis Mistral, le chemin de la Combette, enfin bref, les chantiers qu'on a eu en centre-ville, y compris les travaux en centre-ville. Est-ce qu'il y a eu des gros bugs? Est-ce qu'il y a eu des gros problèmes? Est-ce que, bon, ça s'est plutôt correctement passé? Les entreprises et la collectivité, et là je me tourne vers Mathilde Mazuy qui suit tout ça, bon, ils connaissent leur métier, ils essaient de faire du mieux possible leurs travaux, ils essaient d'être le plus arrangeant possible avec les commerçants, avec les riverains, avec les gens qui passent. Voilà. Après, vous ne me ferez pas dire qu'il n'y aura pas de désagréments, hein. Ce sont des travaux sur une voie particulièrement empruntée. Forcément, ça posera des problèmes à certains. Mais bon, le but des travaux, c'est d'améliorer les choses in fine, comme on l'a fait sur tous les chantiers que je viens de vous citer et plein d'autres. Voilà, donc il faut pas être en permanence dans le négatif. Ouais, c'est pas
possible. Mais on n'est pas dans la négative. Vous ne pouvez pas nous reprocher de nous intéresser à ce qui va se passer quand même.
Oui, mais fait, quand vous dites que vous allez démarrer des travaux, vous avez réfléchi à rien. Et non,
je n'ai pas dit à rien. Je dis sans savoir vers où vous allez faire passer les véhicules. Avec vous, il faudrait toujours avoir... donner notre absolution, là, notre bénédiction. Non, quand même pas. On peut s'en informer, non? Il me semble.
Madame,
alors,
madame,
il faut supprimer
madame,
les madame, questions diverses.
Madame Aoun, pour compléter, sur les chantiers de cette ampleur... Madame Aoun?
Oui, je vous
j'essaie
écoute.
De vous compléter la réponse. Sur des chantiers de cette ampleur, évidemment que et les services municipaux et Vincent Houlet et nous, enfin tous les élus, on a des idées sur la manière de faire pour gêner le moins possible. Donc ça peut être des déviations, ça peut être de travailler sur des demi-chaussées de telle manière qu'il y ait toujours une voie de circulation sur la chaussée. Mais là où Vincent a raison de dire, c'est qu'une fois que le marché est attribué, et encore une fois officiellement, il n'est pas attribué puisqu'on n'a pas eu le concours de retour de la dégâts. Une fois que le marché est attribué, l'entreprise qui a le marché, elle dit « Ah oui, mais là, vous pensiez travailler sur une demi-chaussée, mais en fait, c'est peut-être pas ça le plus intéressant, parce qu'on va être très peu de temps à cet endroit-là. » Donc, c'est ce travail-là qui est en train d'être fait, qui sera validé mi-octobre et présenté le 18. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, à l'instant T, c'est difficile de vous dire précisément de telle date à telle date, ça va être comme ça, ensuite, ça sera comme ça et comme ça. Mais, bien évidemment, ceux qui ont pensé le chantier, et il y en a plusieurs dans cette salle, j'en fais pas forcément partie, mais ceux qui ont pensé le chantier, ils savent qu'à chaque étape du chantier, il y a des alternatives. Ensuite, les professionnels, ils sont aussi là pour ça. Ils ont le chantier, ils ont le marché. C'est à eux de nous dire, bon, finalement, on préfère ne pas faire de déviation, on va travailler par demi-chaussée, par exemple. Voilà.
Mais je préfère votre réponse, voilà. Monsieur Faverjon. C'est plus complet et c'est plus clair.
C'est enregistré, je m'en rappellerai.
Hein. Eh ben oui. Mais je suis honnête, vous voyez. Merci pour vos réponses.
Oui, la question concerne les compteurs Linky. Lors de la délibération du 25 juin dernier, la délibération refusait le déclassement des compteurs et le remplacement par des appareils Linky. Actuellement, il faudrait prendre un arrêté afin que la police municipale puisse verbaliser si nécessaire. Est-ce que vous comptez prendre cet arrêté et dans quel Oui, il y a nécessité pour pouvoir verbaliser, pour pouvoir prendre en compte et verbaliser le fait que Enedis change les compteurs. Et il faut en arrêter pour que la police puisse constater et verbaliser. Alors, est-ce que vous pensez prendre cet arrêté et dans quel délai?
Alors ensuite, je passerai la parole à Mme Morel, mais je veux juste vous rappeler qu'on a adopté une délibération le 25 juin 2018. La sous-préfecture et Enedis ont demandé le retrait de cette délibération et on ne souhaite pas la retirer. Donc je pense que ne la retirant pas, probablement un recours contentieux de l'État, donc de la sous-préfecture ou de la préfecture, et d'Enedis... il va certainement y avoir un recours contentieux qui va être introduit auprès du tribunal administratif. Bon, on verra bien à ce moment-là. Ça, c'est pour la délibération. Concernant l'arrêté, je laisse la parole à Mme Morel.
Alors, il y a un premier arrêté qui sera soumis à la signature du maire très prochainement, demain sans doute, qui va rappeler la violabilité du domicile privé. Donc ça, c'est une première chose. Le deuxième arrêté qui nous a été soumis donc par M. Milan dans sa question diverse porte sur des questions techniques. Et je rappelle qu'un arrêté, c'est un acte juridique qui engage la responsabilité du maire lorsque les prescriptions qui sont contenues dans cet arrêté ne sont pas respectées. Et là, il se trouve que l'arrêté qui nous est proposé va très loin en termes d'interdiction, de prescription et de vérification technique. Voilà, donc ce qu'on va faire dans un premier temps, Madame Goglia, c'est qu'on va vérifier la faisabilité juridique de cet arrêté et de ces prescriptions avant d'en proposer un exemplaire à la signature du maire. Donc dans un premier temps, un premier arrêté qui rappellera, comme l'a fait la commune de Blagnac, la violabilité du domicile privé, et dans un deuxième temps, peut-être un arrêté si la faisabilité juridique est vérifiée.
Ok. Merci.
Bien. Est-ce qu'il y a d'autres... Non, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions diverses inscrites. Eh bien, merci à toutes et à tous. La séance est levée.